Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, le message de la parole, j'aimerais vraiment qu'on aille faire un petit voyage 2000 ans avant. Donc, reculons 2000 ans environ. La scène au bord de la mer de Tibériade, pour vous situer un peu, quelques jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus se présente à Pierre et d'autres disciples aussi. Vous vous rappelez que Pierre, quelques jours auparavant, avait renié le Seigneur Jésus. Il avait dit, je ne connais pas, trois fois même. Et Jésus se trouve devant lui. Et ils étaient au bord de la mer, puis ils étaient même en train de manger et du poisson. Il y avait eu Jésus avait fait un miracle. Puis là, était Pierre là, puis d'autres avec lui. Puis Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Puis il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Mais Jésus demande encore une autre fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui répond, « Sois le berger de mes brebis. » Mais encore une autre fois, encore une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé vraiment. Je ne sais pas ce qui a passé Pierre dans ce moment-là. Il a dit peut-être, là il s'est rappelé les trois fois qu'il a renié. Il était attristé, il dit, oui Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Ça, on peut trouver ce passage dans Jean 21. Oui Seigneur, je t'aime. En fait, en quoi consiste l'amour, je parle en espagnol. En quoi consiste l'amour de Dieu? En quoi consiste l'amour de Dieu? Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et encore plus clair, quand Jean dit dans son premier épître, chapitre 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans ce cas de Pierre qui est devant Jésus, il répondit trois fois, si tu m'aimes vraiment, fais cela. Trois fois il dit, si tu m'aimes vraiment, fais ça. Fais ce que je t'ai dit. Paie mes brebis, sois le berger de mes brebis. Là, on se transporte quelques années encore plus loin et Pierre est en train d'écrire sa première épître. Après des années de ministère, après des années d'avoir prêché l'Évangile, annoncé l'Évangile, après la scène sur la mer avec Jésus, je pense qu'il s'en rappelle ces mots-là parce que c'est quand même important ce qu'il dit. Il parle aux anciens des églises. Il dit « Faites paître le troupeau de Dieu ». Et trois choses, volontairement, selon Dieu, des bons cœurs, en étant modèle du troupeau. Trois choses encore. Je pense que dans ces moments-là, Pierre est en train de penser ces moments qu'il y a eu avec Jésus. Sois le berger de mes brebis. Puis Pierre, avec son expérience, il transmet ce message aux autres aussi, aux anciens. Il dit, volontairement, selon Dieu, des bons cœurs, en étant modèle du troupeau. Ça, c'est le résultat d'une vie qui reflète l'amour envers Dieu. C'est le résultat de la vie de Pierre qui reflète vraiment l'amour envers Dieu. Mais je veux qu'on aille encore 1000 ans. Donc, on est rendu à combien d'années? Pour ceux qui écoutent, 3000, hein? Parce que 2000, 1000 ans après, 1000 ans avant, pardon. Le roi David. Et son nom, ça veut dire « bien-aimé ». Bien-aimé. Dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, on voit une cantique qui est répertoriée vers la fin de la vie de David. 2 Samuel finit à chapitre 24, mais dans le chapitre 22, on voit une cantique du roi David vers la fin de sa vie. Et puis ces cantiques-là, en fait, c'est vraiment le psaume 18. Et donc, j'aimerais qu'on aller dans nos Bibles et on va rester dans le psaume 18. Il y a 51 versets. On ne va pas lire les 51 versets, on va passer au travers. Mais on va lire et on va aller voir ce que la parole de Dieu dit dans psaume 18. On va lire les 4 premiers versets, s'il vous plaît. Tous avec vos Bibles. Psaume 18, pardon. C'est bien? Vous êtes tous? La parole de Dieu dit comme ça. Au chef de cœur du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Quand l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. » Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Oui, Seigneur, tu nous aimes. Merci pour ces instants qu'on peut, Seigneur, aller vers ta parole, Seigneur, et la lire et apprendre de toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as gardée fidèlement. Merci parce que c'est la vérité, Seigneur. Merci encore pour ton Fils Jésus, mort pour nous sur la croix, Seigneur, pour nos péchés. Merci pour cette journée qu'on est réunis ensemble, dimanche, le premier jour de la résurrection. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Veuille bénir la parole, ta parole dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus qu'on prie, Seigneur. Amen. C'est très beau psaume que j'ai beaucoup aimé quand j'ai tombé surtout sur le verset 2. Il dit, je t'aime, Éternel. Je t'aime, Éternel. C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça à Dieu? Souvent, on prie à Dieu, puis on loue Dieu et on dit, Seigneur, merci pour telle chose, merci. Oui, on dit merci pour ton amour. Mais savez-vous, on a une relation personnelle avec Dieu. C'est comme quand on parle avec quelqu'un. Mais moi le premier, souvent, je ne prends pas le temps de dire, je t'aime, Seigneur. Quoique notre amour n'est pas parfait, mais on l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Et le psalmiste David, il dit, je t'aime, Éternel. Et là, il commence avec 8 caractéristiques de Dieu. Vous avez entendu tantôt? Je t'aime, Éternel, quoi? Ma force. Je pense que David est bien placé pour dire ça. Ma force. Toujours, David évoquait la force qui venait de Dieu. Il lui donnait la force. Il a vaincu qui? Goliath. Il était fort, mais c'est Dieu qui lui a donné la force. Ma force. Mon roc. Inébranlable, qui ne change pas. Il est en train de dire ça à son Dieu. Mon roc. Il n'est pas en train de dire juste Seigneur, la force, le libérateur, le Dieu puissant. Il est en train de s'approprier à la fin de sa vie. Il dit, ma force, mon roc, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Là où le Seigneur nous place pour voir même tous nos problèmes, tous nos ennemis. Puis il dit, tu es ma haute retraite. Ce cantique fait partie des psaumes royaux qu'on appelle composés pour rendre gloire à Dieu, pour sa bonté envers les descendants de David. Et dans ces magnifiques cantiques, vraiment David trace l'histoire de sa vie, le récit de ses délivrances admirables et les victoires que l'Éternel lui a accordées. Il rappelle également aussi les sentiments de son cœur envers Dieu, son affection authentique envers Dieu. Ainsi, sa sincérité pour toujours faire la volonté de Dieu. Premièrement, David est secouru par l'Éternel. Si on voit tous les psaumes 18, premièrement, David raconte comment il est secouru par l'Éternel. Deuxièmement, il explique les raisons de cette délivrance. Et finalement, David se réjouit des bénédictions dont il est objet de la part de Dieu. Et on va passer au travers de ces psaumes-là. Je vous invite encore à rester sur le psaume 18. Mais comme on l'a dit, ce psaume commence par ces mots « Je t'aime ». Le mot en hébreu, je ne connais pas l'hébreu, mais c'est « racham ». L'hébreu signifie « chérir avec tendresse ». D'ailleurs, il est peu utilisé dans l'Ancien Testament. Il dit « Je t'aime ». Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Puis entre les louanges, du verset 2 au verset 4, et celle de la conclusion aussi, si on peut voir le psaume 18 à la conclusion, 47 à 51, entre ces deux louanges, la vie de David est décrite. Et donc, je vous invite maintenant à aller vraiment dans le texte du psaume 18 et commençons par le verset 5. Dans sa détresse, il se tourne vers son Dieu. Dans la détresse, il se tourne vers son Dieu. 5. Les liens de la mort m'avaient entouré. Le verset 6. Les liens du séjour de la mort m'avaient entouré encore. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie mon Dieu. De son palais, il entend ma voix. Et mon cri vient vers lui, parvient à ses oreilles. Dans ma détresse. Souvent, dans notre détresse, dans nos moments difficiles, des fois, on se tourne vers nous-mêmes et on veut trouver une solution à nos problèmes. Mais c'est un bon exemple de David. Il se tourne vraiment. Quand on est dans la détresse, dans le désespoir, des fois, on ne sait pas quoi faire. Et des fois, une des choses qu'on ne fait pas, c'est prier vraiment et chercher Dieu avant. On cherche d'autres choses. On cherche vraiment d'avoir une solution par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais David est en train de dire, dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Parce qu'il sait qu'il écoute. Il sait que l'Éternel, il aime son Dieu. Et il sait que son Dieu l'aime aussi. Son grand Dieu puissant qu'il aime. Il y a une description de la présence divine, ce qu'on appelle une théophanie, une description vraiment du verset 8 au verset 16. Si vous pouvez voir, on ne va pas tout lire le texte, mais du verset 8 au verset 16, on voit vraiment une description de Dieu vraiment littérale au niveau de sa création et tout. La terre, il dit le verset 8, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes, le verset 9, un feu dévorant sortit de sa bouche. Le verset 10, il descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. 11, il était monté sur un chérubin. Le 14, l'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fait retentir sa voix. Le verset 16, le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. On voit vraiment un Dieu puissant. Et je pense qu'il fait aussi rappel à la création même. Il dit dans le verset 17 à 19, il est son libérateur. Après avoir témoigné de sa puissance extraordinaire, de ce Dieu qu'il aime, il vient le sauver personnellement. Si vous voyez dans les versets 17 à 19, il étend sa, on a même chanté, on a fait des chants avec ce verset 17. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Ça vous rappelle quoi ça? Il est en train de se rappeler de quoi peut-être? Il connaissait bien l'histoire du peuple d'Israël, David. Peut-être de la mer Rouge, le passage de la mer Rouge. Il me saisit, il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant. Peut-être il pensait à Goliath, Saül même, de ceux qui me haïssent et ils sont plus forts que moi-même. Il m'avait affronté au jour du malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Encore une fois, l'Éternel fut mon appui, mon libérateur, mon aide. À partir du verset 20, on va voir la relation, cette relation de Dieu et de David avec son Dieu. Le verset 20. Il m'a fait sortir pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré car il m'a pris en affection. Il m'a retiré car il m'a pris en affection. D'autres traduisent cette phrase car il m'aime. il m'a aimé. Ou il prend plaisir en moi. Il prend plaisir à ce que je fais. Et ça introduit vraiment très bien le verset 21 au verset 27. Parce qu'on dirait à partir du verset 21 que David est en train de se vanter de sa justice ou de ce qu'il fait. Parce que si vous regardez le verset 21, vous voyez le 21, « L'Éternel m'a traité selon ma justice ou ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de ses mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel. Je ne me suis pas éloigné avec méchanceté de mon Dieu. » La verset 25 aussi, « L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes ennemis devant ses yeux. » Il continue. Mais le verset 21 ou verset 25, ça pourrait être lu aussi comme « J'ai obéi au Seigneur et il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. » David, en fait, quand il dit ça, il voit vraiment son intégrité comme un résultat de l'action de Dieu. C'est ce qu'il est, il voit vraiment comme un résultat de l'action de Dieu dans sa vie. Si on va plus loin dans le psaume 51, 11, 12, vous connaissez très bien ce psaume 51, quand David avoue son péché à Dieu, il dit « Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, en moi un esprit bien disposé. » Ça serait contradictoire à ce qu'il dit dans le... Vraiment, c'est une réponse à sa prière. Ce que David est en train de témoigner au verset 21. Je pense que David veut exprimer ce que Jérémie exprime dans le chapitre 9, verset 23. Il dit, « Mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître. » C'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, dit l'Éternel, de savoir qui je suis, l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre. Car c'est là que je prends plaisir. Encore une fois, le verset 18, on lisait, il prend plaisir à ce que David fait. Donc, car c'est là que je prends plaisir. David vraiment cherchait à obéir à la parole de Dieu, cherchait vraiment à plaire Dieu. Loin de David, le fait de se glorifier de ses œuvres. Au contraire, David attribuait toujours tout à Dieu. Vous vous rappelez ce que vous avez lu? Vous vous prenez le temps de lire le chapitre où il affronte Goliath? Il s'adresse toujours à Dieu. Tout ce qu'il fait, sa force, il ne dit jamais « c'est ma force, c'est moi ». Il attribue toujours ça à Dieu, toujours. Le verset 28 dans le psaume 18, là il dit « Car c'est toi qui sauves les gens malheureux et qui abaissent les regards hautains, ceux qui sont et qui ont les regards hautains, les orgueilleux. C'est toi qui sauves. » Encore le 29, « C'est toi qui fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Avec toi, encore le 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée, avec mon Dieu, je saute une muraille. Son amour vers Dieu le pousse à obéir sa parole et déclarer cela. » Son amour vers Dieu le pousse à obéir sa parole. Il le pousse à dire cela dans le verset 31. Les voies des dieux sont quoi? Parfaites. Quand David était en train de paître ses brebis dans le champ, et Dieu l'a appelé pour être le roi. Il était tranquille, c'est sûr. Il y avait des dangers. Il parlait du lion, l'ours. Mais quand il est devenu roi, il a été nommé roi, c'est là que je pense que les problèmes ont commencé. Puis, pourtant, il faisait la volonté de Dieu. Puis c'est là que les attaques ont commencé. Premièrement, Saül. Premièrement, le roi. Mais malgré tout ça, en train de faire toute l'histoire de sa vie, il dit, les voies des dieux sont parfaites. On dirait qu'il est en train de dire, j'accepte la volonté des dieux dans ma vie. Même si c'est difficile des fois, les voies des dieux sont parfaites. Nos voies sont imparfaites, en fait. Les voies des dieux sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel est éprouvée. C'est-à-dire, elle a fait ses preuves. Sa parole est sûre. On peut se confier en lui. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car c'est Dieu. Le mot Eloah, au lieu de Elohim, quand on parle de Dieu seul, mais en pluriel dans l'hébreu, ce mot-là, Dieu, Eloah, décrit un Dieu seul, le seul, unique Dieu. Puis dans ce verset, il dit, « Car c'est toi, c'est Dieu, Eloah, si ce n'est pas, si ce n'est l'Éternel. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel ?» Quatre fois, c'est employé ces mots-là dans tous les psaumes. Et ces mots-là sont employés beaucoup par Job. Beaucoup par Job. Car c'est Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Voici comment il décrit Dieu à partir du verset 33. Pardon. C'est Dieu qui... Mes seins de force. 34. Il rend mes pieds comme semblables à des biches. 35. Il exerce mes mains à la bataille. 35. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Ta bonté me fait devenir grand. 37. Tu me fais allonger les pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Le 40. Tu me seins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. 44, tu me fais échapper. Et le verset jusqu'au 46, ça continue. Voici, c'est la façon que David décrit son Dieu. Ce Dieu qu'il aime. Puis au verset 47 à 50, une louange à son Dieu qui lui fait justice. Vous pouvez voir dans le verset 47, « Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » Vive l'Éternel, ou on peut aussi dire, « L'Éternel est vivant. » Le Dieu qui m'accorde la vengeance, c'est Dieu, c'est à Dieu la vengeance. « Qui m'assujettit des peuples, qui me fait échapper de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. » Ma haute retraite, vous vous rappelez au début, « Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. » Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai en honneur de ton nom. C'est pourquoi, il dit le verset 50, c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai en honneur de ton nom. Et le verset 51, le psaume 18, finit par une reconnaissance du roi David envers Dieu. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Il use des bienveillances envers son Messie, son roi, envers David et sa descendance, pour toujours, avec David et sa descendance, en fait, sa postérité. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Il est en train de parler de lui. Mais là, il parle aussi, il use des bienveillances envers son Messie. Ces versets conclusifs affirment vraiment la portée messianique et de l'alliance faite à David dans 2 Samuel 7. Vraiment, je pense que David a dans sa tête ce verset, cette alliance qu'il a faite avec Dieu, cette promesse que Dieu lui a faite. Dans 2 Samuel 7, à partir du 20 et 11, je veux juste résumer quelques mots que Dieu mentionne à David par rapport à cette alliance. Il dit, « Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. » Je pense que ça commence comme ce psaume-là. « Je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. J'affermirai pour toujours son trône royal. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à David, le Messie qu'il allait venir. Je pense que quand les gens lisaient ces psaumes-là, ils étaient encouragés de voir c'est David qui aimait son Dieu et qui avait l'espoir en ce Messie qui un jour allait venir. Ça, c'est dans le temps où ces psaumes ont été écrits. Je pense que pour les gens qui lisaient ces psaumes-là, c'était un encouragement à savoir que ce Dieu fidèle allait envoyer un jour son Messie pour sauver son peuple. Et revenons maintenant, de 3000 en arrière, revenons aujourd'hui maintenant. Pour nous, ces psaumes nous parlent du Messie promis. C'est qui ce Messie-là? Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul cite ce verset 50 du psaume 18. Quand il dit « C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations », Paul utilise ce verset pour montrer que le début de l'œuvre de Dieu en Israël en vue du salut pour toutes les nations. Vraiment, il cite ce verset pour démontrer l'œuvre de Dieu qui commence par Israël, mais pour toutes les nations. Et je pense qu'on peut le vivre aujourd'hui. Tellement des nations représentées ici, en commençant par moi. Tellement des nations. Et je ne vais pas dire le pays, parce que vous savez quel pays je viens. Du Canada. Mais on voit vraiment la bénédiction de Dieu pour nos vies jusqu'aujourd'hui. Il a envoyé son Messie, son Sauveur. Maintenant, je vous pose une question. Vous aimez Dieu, frères et sœurs? Je pose cette question à mes frères et à mes sœurs. Vous aimez Dieu? Vous aimez Dieu? Je fais exprès, je pose la question trois fois. Pour nous, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Oui, nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Pas par nos mérites, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Puis il a envoyé son Fils. Et en quoi consiste cet amour, comme j'ai dit tantôt? Car l'amour des yeux consiste à garder ses commandements. On voit cet exemple dans la vie de David. Il aime Dieu. Il garde ses commandements. Je pense que vous pouvez très bien voir l'amour de David envers Dieu quand il écrit le psaume 119. Il aime la parole de Dieu. Il veut faire sa volonté. Et Jean aussi écrit dans Jean 3, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et nous le sommes. » Voyez quel amour le Père nous a donné. Il a donné son Fils lui-même pour nous sauver, pour nous pardonner de tous nos péchés. Et juste par sa grâce, pas pour nos mérites, par sa grâce. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ,